pour une certaine partie, ce qui, à Balbec, donnait à la population d'ordinaire banalement riche et cosmopolite, de ces sortes d'hôtels de grand luxe, un caractère régional assez accentué, il se composait de personnalités éminentes des principaux départements de cette partie de la France. D'un premier président de Caen, d'un bâtonnier de Cherbourg, d'un grand notaire du Mans, qui, à l'époque des vacances, partant des points sur lesquels toute l'année ils étaient disséminés en tirailleurs, ou comme les pions au jeu de dames, venaient se concentrer dans cet hôtel. Ils y conservaient toujours les mêmes chambres, et avec leurs femmes qui avaient des prétentions à l'aristocratie, formaient un petit groupe auquel s'était adjoint un grand avocat et un grand médecin de Paris, qui, le jour du départ, leur disait « Ah, c'est vrai, vous ne prenez pas le même train que nous. Vous êtes privilégiés, vous serez rendus pour le déjeuner. » « Comment, privilégiés? Vous qui habitez la capitale, Paris, la grande ville, tandis que j'habite un pauvre chef-lieu de 100 000 âmes. Il est vrai 102 000 au dernier recensement. Mais qu'est-ce à côté de vous qui en comptez 2 500 000 et qui allez retrouver l'asphalte et tout l'éclat du monde parisien ?» Il le disait avec un roulement d'air paysan, sans y mettre d'aigreur, car c'était des lumières de leur province qui auraient pu, comme d'autres, venir à Paris. On avait plusieurs fois offert au premier président de Caen un siège à la cour de cassation, mais avaient préféré rester sur place par amour de leur ville, ou de l'obscurité, ou de la gloire, ou parce qu'ils étaient réactionnaires, et pour l'agrément des relations de voisinage avec les châteaux. Plusieurs d'ailleurs ne regagnaient pas tout de suite leur chef-lieu. Car, comme la baie de Balbec était un petit univers à part au milieu du grand, une corbeille des saisons où étaient rassemblés en cercle les jours variés et les mois successifs, si bien que, non seulement les jours où on apercevait Rivebelle, ce qui était signe d'orage, on y distinguait du soleil sur les maisons pendant qu'il faisait noir à Balbec, mais encore que, quand les froids avaient gagné Balbec, on était certain de trouver sur cette autre rive 2 ou 3 mois supplémentaires de chaleur. Ceux de ces habitués du grand hôtel dont les vacances commençaient tard ou duraient longtemps faisaient, quand arrivaient les pluies et les brumes à l'approche de l'automne, charger leurs malles sur une barque et traversaient rejoindre l'été à Rivebelle ou à Côte d'Or. Ce petit groupe de l'hôtel de Balbec regardait d'un air méfiant chaque nouveau venu, et en ayant l'air de ne pas s'intéresser à lui, tous interrogeaient sur son compte leur ami le maître d'hôtel. Car c'était le même, Aimé, qui revenait tous les ans faire la saison et leur gardait leur table. Et mesdames leurs épouses, sachant que sa femme attendait un bébé, travaillaient après les repas chacune à une pièce de la layette, tout en nous toisant avec leur face à main, ma grand-mère et moi, parce que nous mangions des œufs durs dans la salade, ce qui était réputé commun et ne se faisait pas dans la bonne société d'Alençon. Ils affectaient une attitude de méprisante ironie à l'égard d'un Français qu'on appelait Majesté et qui s'était en effet proclamé lui-même roi d'un petit îlot de l'Océanie, peuplé seulement par quelques sauvages. Il habitait l'hôtel avec sa jolie maîtresse, sur le passage de qui, quand elle allait se baigner, les gamins criaient « Vive la reine !» parce qu'elle faisait pleuvoir sur eux des pièces de 50 centimes. Le premier président et le bâtonnier ne voulaient même pas avoir l'air de la voir, et si quelqu'un de leurs amis la regardait, ils croyaient devoir le prévenir que c'était une petite ouvrière. Mais on m'avait assuré qu'à Ostende, ils usaient de la cabine royale. Naturellement, on la loue pour 20 francs. Vous pouvez la prendre si cela vous fait plaisir. Et je sais pertinemment que lui avait fait demander une audience au roi qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas à connaître ce souverain de Guignol. Oh, vraiment, c'est intéressant. Il y a tout de même des gens. Et sans doute, tout cela était vrai. Mais c'était aussi par ennui de sentir que pour une bonne partie de la foule, ils n'étaient, eux, que de bons bourgeois qui ne connaissaient pas ce roi et cette reine prodigue de leur monnaie, que le notaire, le président, le bâtonnier, au passage de ce qu'ils appelaient un carnaval, éprouvaient tant de mauvaise humeur et manifestaient tout haut une indignation au courant de laquelle était leur ami le maître d'hôtel, qui, obligé de faire bon visage au souverain plus généreux qu'authentique, cependant tout en prenant leur commande, adressait de loin à ses vieux clients un clignement d'œil significatif. Peut-être y avait-il aussi un peu de ce même ennui d'être par erreur cru moins chic et de ne pouvoir expliquer qu'il l'était davantage au fond du « joli monsieur » dont il qualifiait un jeune gommeux, fils poitrinaire et fêtard d'un grand industriel, et qui tous les jours, dans un veston nouveau, une orchidée à la boutonnière, déjeunait au champagne et allait, pâle, impassible, un sourire d'indifférence aux lèvres, jeter au casino sur la table de baccarat des sommes énormes qu'il n'a pas les moyens de perdre, disait d'un air renseigné le notaire au premier président, duquel la femme tenait de bonne source que ce jeune homme fin de siècle faisait mourir de chagrin ses parents. D'autre part, le bâtonnier et ses amis ne tarissaient pas de sarcasme au sujet d'une vieille dame riche et titrée, parce qu'elle ne se déplaçait qu'avec tout son train de maison. Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, elles l'inspectaient insolemment avec leur face à main du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom pompeux, mais à l'apparence suspecte, qu'après le résultat défavorable d'une observation méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. Sans doute par là voulait-elle seulement montrer que, s'il y avait certaines choses dont elle manquait, dans l'espèce certaines prérogatives de la vieille dame, et être en relation avec elle, c'était non pas parce qu'elle ne pouvait, mais ne voulait pas les posséder. Mais elles avaient fini par s'en convaincre elles-mêmes, et c'est la suppression de tout désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu'on ne connaît pas, de l'espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacé chez ces femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait l'inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l'étiquette de contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes, deux conditions pour qu'elles fussent malheureuses. Mais tout le monde dans cet hôtel agissait sans doute de la même manière qu'elle, bien que sous d'autres formes, et sacrifiait, sinon à l'amour-propre, du moins à certains principes d'éducation ou à des habitudes intellectuelles, le trouble délicieux de se mêler à une vie inconnue. Sans doute le microcosme dans lequel s'isolait la vieille dame n'était pas empoisonné de virulentes aigreurs, comme le groupe où ricanait de rage la femme du notaire et du premier président. Il était au contraire embaumé d'un parfum fin et vieillot, mais qui n'était pas moins factice, car au fond, la vieille dame eût probablement trouvé à séduire, à s'attacher, en se renouvelant pour cela elle-même, la sympathie mystérieuse d'être nouveau, un charme dont est dénué le plaisir qu'il y a à ne fréquenter que des gens de son monde, et à se rappeler que, ce monde étant le meilleur qui soit, le dédain mal informé d'autrui est négligeable. Peut-être sentait-elle que, si elle était arrivée inconnue au grand hôtel de Balbec, elle eût, avec sa robe de laine noire et son bonnet démodé, fait sourire quelques noceurs qui, de son rocking, eût murmuré « Quelle purée !» ou surtout quelque homme de valeur ayant gardé, comme le premier président entre ses favoris poivre et sel, un visage frais et des yeux spirituels comme elle les aimait, et qui eût aussitôt désigné à la lentille rapprochante du face-à-main conjugal l'apparition de ce phénomène insolite. Et peut-être était-ce par inconsciente appréhension de cette première minute qu'on sait courte, mais qui n'est pas moins redoutée, comme la première tête qu'on pique dans l'eau, que cette dame envoyait d'avance un domestique mettre l'hôtel au courant de sa personnalité et de ses habitudes, et, coupant court aux salutations du directeur, gagnait, avec une brièveté où il y avait plus de timidité que d'orgueil, sa chambre ou des rideaux personnels, remplaçant ceux qui pendaient aux fenêtres, des paravents, des photographies, mettait si bien entre elle et le monde extérieur auquel il eût fallu s'adapter la cloison de ses habitudes, que c'était son chez-elle au sein duquel elle était restée qui voyageait plutôt qu'elle-même. Dès lors, ayant placé entre elles d'une part le personnel de l'hôtel et les fournisseurs de l'autre, ses domestiques qui recevaient à sa place le contact de cette humanité nouvelle et entretenaient autour de leur maîtresse l'atmosphère accoutumée, ayant mis ses préjugés entre elle et les baigneurs, insoucieuse de déplaire à des gens que ses amis n'auraient pas reçus, c'est dans son monde qu'elle continuait à vivre par la correspondance avec ses amis, par le souvenir, par la conscience intime qu'elle avait de sa situation, de la qualité de ses manières, de la compétence de sa politesse. Et tous les jours, quand elle descendait pour aller dans sa calèche faire une promenade, sa femme de chambre qui portait ses affaires derrière elle, son valet de pied qui la devançait, semblaient comme ces sentinelles qui, aux portes d'une ambassade pavoisée aux couleurs du pays dont elle dépend, garantissent pour elle, au milieu d'un sol étranger, le privilège de son exterritorialité. Elle ne quitta pas sa chambre avant le milieu de l'après-midi, le jour de notre arrivée, et nous ne l'aperçûmes pas dans la salle à manger où le directeur, comme nous étions nouveaux venus, nous conduisit sous sa protection à l'heure du déjeuner, comme un gradé qui mène des bleus chez le caporal tailleur pour les faire habiller. Mais nous y vîmes, en revanche, au bout d'un instant, un obereau et sa fille d'une obscure mais très ancienne famille de Bretagne, monsieur et mademoiselle de Stermaria, dont on nous avait fait donner la table, croyant qu'ils ne rentreraient que le soir. Venus seulement à Balbec pour retrouver des châtelains qu'ils connaissaient dans le voisinage, ils ne passaient dans la salle à manger de l'hôtel, entre les invitations acceptées au dehors et les visites rendues, que le temps strictement nécessaire. C'était leur morgue qui les préservait de toute sympathie humaine, de tout intérêt pour les inconnus assis autour d'eux, et au milieu desquels M. de Stermaria gardait l'air glacial, pressé, distant, rude, pointilleux et mal intentionné, qu'on a dans un buffet de chemin de fer au milieu de voyageurs qu'on n'a jamais vus, qu'on ne reverra pas, et avec qui on ne conçoit d'autre rapport que de défendre contre eux son poulet froid et son coin dans le wagon. À peine commencions-nous à déjeuner qu'on vint nous faire lever sur l'ordre de M. de Stermaria, lequel venait d'arriver, et, sans le moindre geste d'excuse à notre adresse, pria à haute voix le maître d'hôtel de veiller à ce qu'une pareille erreur ne se renouvelât pas, car il lui était désagréable que des gens qu'il ne connaissait pas eussent pris sa table. Et certes, dans le sentiment qui poussait une certaine actrice, plus connue d'ailleurs à cause de son élégance, de son esprit, de ses belles collections de porcelaine allemande, que pour quelque rôle joué à l'Odéon, son amant, jeune homme très riche pour lequel elle s'était cultivée, et deux hommes très en vue de l'aristocratie, à faire dans la vie bande à part, à ne voyager qu'ensemble, à prendre à Balbec leur déjeuner très tard quand tout le monde avait fini, à passer la journée dans leur salon à jouer aux cartes, ils n'entraient aucune malveillance, mais seulement les exigences du goût qu'ils avaient pour certaines formes spirituelles de conversation, pour certains raffinements de bonne chère, lequel leur faisait trouver plaisir à ne vivre, à ne prendre leur repas qu'ensemble, et leur eût rendu insupportable la vie en commun avec des gens qui n'y avaient pas été initiés. Même devant une table servie ou devant une table à jeu, chacun d'eux avait besoin de savoir que dans le convive ou le partenaire qui était assis en face de lui reposait en suspens et inutilisé un certain savoir qui permet de reconnaître la camelote dont tant de demeures parisiennes se parent comme d'un Moyen-Âge ou d'une Renaissance authentique, et en toute chose des critériums communs à eux pour distinguer le bon et le mauvais. Sans doute ce n'était plus dans ces moments-là que par quelque rare et drôle interjection jetée au milieu du silence du repas ou de la partie, ou par la robe charmante et nouvelle que la jeune actrice avait revêtue pour déjeuner ou faire un poker, que se manifestait l'existence spéciale dans laquelle ses amis voulaient partout rester plongés. Mais en les enveloppant ainsi d'habitudes qu'ils connaissaient à fond, elle suffisait à les protéger contre le mystère de la vie ambiante. Pendant les longs après-midi, la mer n'était suspendue en face d'eux que comme une toile d'une couleur agréable accrochée dans le boudoir d'un riche célibataire, et ce n'était que dans l'intervalle des coups qu'un des joueurs, n'ayant rien de mieux à faire, levait les yeux vers elle pour en tirer une indication sur le beau temps ou sur l'heure, et rappeler aux autres que le goûter attendait. Et le soir, ils ne dînaient pas à l'hôtel où, les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. En attendant, peut-être parmi la foule arrêtée et confondue dans la nuit, y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d'ichtyologie humaine qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisait à classer ceci par race, par caractères innés et aussi par ces caractères acquis qui font qu'une vieille dame serbe, dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer, parce que depuis son enfance elle vit dans les eaux douces du faubourg Saint-Germain, mange la salade comme une La Rochefoucauld. À cette heure-là, on apercevait les trois hommes en smoking attendant la femme en retard, laquelle bientôt, en une robe presque chaque fois nouvelle et des écharpes choisies selon un goût particulier à son amant, après avoir, de son étage, sonné le lift, sortait de l'ascenseur comme d'une boîte de joujoux. Et tous les quatre qui trouvaient que le phénomène international du palace, implanté à Balbec, y avait fait fleurir le luxe plus que la bonne cuisine, s'engouffrant dans une voiture, allaient dîner à une demi-lieue de là dans un petit restaurant réputé où ils avaient, avec le cuisinier, d'interminables conférences sur la composition du menu et la confection des plats. Pendant ce trajet, la route bordée de pommiers qui part de Balbec n'était pour eux que la distance qu'il fallait franchir, peu distincte dans la nuit noire de celle qui séparait leur domicile parisien du café anglais ou de la tour d'argent, avant d'arriver au petit restaurant élégant où, tandis que les amis du jeune homme riche l'enviaient d'avoir une maîtresse si bien habillée, les écharpes de celle-ci tendaient devant la petite société comme un voile parfumé et souple, mais qui la séparait du monde. Malheureusement pour ma tranquillité, j'étais bien loin d'être comme tous ces gens. De beaucoup d'entre eux, je me souciais. J'aurais voulu ne pas être ignoré d'un homme au front déprimé, au regard fuyant entre les œillères de ses préjugés et de son éducation, le grand seigneur de la contrée, lequel n'était autre que le beau-frère de Legrandin. Il venait quelquefois en visite à Balbec et, le dimanche, par la garden party hebdomadaire que sa femme et lui donnaient, dépeuplait l'hôtel d'une partie de ses habitants, parce qu'un ou deux d'entre eux étaient invités à ses fêtes, et parce que les autres, pour ne pas avoir l'air de ne pas l'être, choisissaient ce jour-là pour faire une excursion éloignée. Il avait d'ailleurs été le premier jour fort mal reçu à l'hôtel quand le personnel frais débarqué de la Côte d'Azur ne savait pas encore qui il était. Non seulement il n'était pas habillé en flanelle blanche, mais par vieille manière française et ignorance de la vie des palaces, entrant dans un hall où il y avait des femmes, il avait ôté son chapeau dès la porte, ce qui avait fait que le directeur n'avait même pas touché le sien pour lui répondre, estimant que ce devait être quelqu'un de la plus humble extraction, ce qu'il appelait un homme sortant de l'ordinaire. Seule la femme du notaire s'était sentie attirée vers le nouveau venu qui fleurait toute la vulgarité gourmée des gens comme il faut, et elle avait déclaré avec le fond de discernement infaillible et d'autorité sans réplique d'une personne pour qui la première société du Mans n'a pas de secret, qu'on se sentait devant lui en présence d'un homme d'une haute distinction, parfaitement bien élevé, et qui tranchait sur tout ce qu'on rencontrait à Balbec et qu'elle jugeait infréquentable tant qu'elle ne le fréquentait pas. Ce jugement favorable qu'elle avait porté sur le beau-frère de Legrandin tenait peut-être au terne aspect de quelqu'un qui n'avait rien d'intimidant, peut-être à ce qu'elle avait reconnu dans ce gentilhomme fermier à l'allure de sacristain les signes maçonniques de son propre cléricalisme. J'avais beau avoir appris que les jeunes gens qui montaient tous les jours à cheval devant l'hôtel étaient les fils du propriétaire véreux d'un magasin de nouveautés et que mon père n'eût jamais consenti à connaître, la vie de bain de mer les dressait à mes yeux en statues équestres de demi-dieux, et le mieux que je pouvais espérer était qu'ils ne laissassent jamais tomber leur regard sur le pauvre garçon que j'étais, qui ne quittait la salle à manger de l'hôtel que pour aller s'asseoir sur le sable. J'aurais voulu inspirer de la sympathie même à l'aventurier qui avait été roi d'une île déserte en Océanie, même au jeune tuberculeux dont j'aimais à supposer qu'il cachait sous ses dehors insolents une âme craintive et tendre, qui eût peut-être prodigué pour moi seul des trésors d'affection. D'ailleurs, au contraire de ce qu'on dit d'habitude des relations de voyage, comme être vu avec certaines personnes peut vous ajouter sur une plage où l'on retourne quelquefois un coefficient sans équivalent dans la vraie vie mondaine, il n'y a rien, non pas qu'on tienne aussi à distance, mais qu'on cultive si soigneusement dans la vie de Paris que les amitiés de bain de mer. Je me souciais de l'opinion que pouvaient avoir de moi toutes ces notabilités momentanées ou locales que ma disposition à me mettre à la place des gens et à recréer leur état d'esprit me faisait situer non à leur rang réel, à celui qu'ils auraient occupé à Paris, par exemple, et qui eût été fort bas, mais à celui qu'ils devaient croire le leur, et qu'il était, à vrai dire, à Balbec, où l'absence de commune mesure leur donnait une sorte de supériorité relative et d'intérêt singulier. Hélas, d'aucune de ces personnes le mépris ne m'était aussi pénible que celui de monsieur de Stermaria. Car j'avais remarqué sa fille dès son entrée, son joli visage pâle et presque bleuté, ce qu'il y avait de particulier dans le port de sa haute taille, dans sa démarche, et qui m'évoquait avec raison son hérédité, son éducation aristocratique, et d'autant plus clairement que je savais son nom. Comme ces thèmes expressifs inventés par des musiciens de génie et qui peignent splendidement le scintillement de la flamme, le bruissement du fleuve et la paix de la campagne, pour les auditeurs qui, en parcourant préalablement le livret, ont aiguillé leur imagination dans la bonne voie. La race, en ajoutant au charme de Mademoiselle de Stermaria l'idée de leur cause, les rendait plus intelligibles, plus complets. Elle les faisait aussi plus désirables, annonçant qu'ils étaient peu accessibles, comme un prix élevé ajoute à la valeur d'un objet qui nous a plu. Et la tige héréditaire donnait à ce teint, composé de sucre choisi, la saveur d'un fruit exotique ou d'un cru célèbre. Or, un hasard mit tout d'un coup entre nos mains le moyen de nous donner, à ma grand-mère et à moi, pour tous les habitants de l'hôtel, un prestige immédiat. En effet, dès ce premier jour, au moment où la vieille dame descendait de chez elle, exerçant, grâce au valet de pied qui la précédait, à la femme de chambre qui courait derrière avec un livre et une couverture oubliée, une action sur les âmes, et excitant chez tous une curiosité et un respect auxquels il fut visible qu'échappait moins que personne monsieur de Stermaria, le directeur se pencha vers ma grand-mère, et par amabilité, comme on montre le chat de Perse ou la reine Ranavalo, un spectateur obscur qui ne peut évidemment avoir aucune relation avec le puissant souverain, mais peut trouver intéressant de l'avoir vu à quelques pas, il lui coula dans l'oreille « La marquise de Villeparisis ». Cependant qu'au même moment, cette dame, apercevant ma grand-mère, ne pouvait retenir un regard de joyeuse surprise. On peut penser que l'apparition soudaine, sous les traits d'une petite vieille, de la plus puissante des fées, ne m'aurait pas causé plus de plaisir. Dénuée comme j'étais de tout recours pour m'approcher de Mademoiselle de Stermaria, dans un pays où je ne connaissais personne. J'entends personne au point de vue pratique. Esthétiquement, le nombre des types humains est trop restreint pour qu'on n'ait pas bien souvent, dans quelque endroit qu'on aille, la joie de revoir des gens de connaissance, même sans les chercher dans les tableaux des vieux maîtres, comme faisait Swann. C'est ainsi que, dès les premiers jours de notre séjour à Balbec, il m'était arrivé de rencontrer le grand dain, le concierge de Swann, et Madame Swann elle-même, devenue le premier un garçon de café, le second un étranger de passage que je ne revis pas, et la dernière un maître baigneur. Et une sorte d'aimantation attire et retient si inséparablement les uns auprès des autres certains caractères de physionomie et de mentalité que, quand la nature introduit ainsi une personne dans un nouveau corps, elle ne la mutile pas trop. Le grand dain changé en garçon de café gardait intact sa stature, le profil de son nez et une partie du menton. Madame Swann, dans le sexe masculin et la condition de maître baigneur, avait été suivie non seulement par sa physionomie habituelle, mais même par une certaine manière de parler. Seulement, elle ne pouvait pas m'être de plus d'utilité, entourée de sa ceinture rouge et hissant à la moindre houle le drapeau qui interdit les bains, car les maîtres baigneurs sont prudents, sachant rarement nager. Qu'elle ne l'eût pu dans la fresque de la vie de Moïse où Swann l'avait reconnue jadis sous les traits de la fille de Jéthro. Tandis que cette madame de Valparisis était bien la véritable, elle n'avait pas été victime d'un enchantement qui l'eût dépouillée de sa puissance, mais était capable, au contraire, d'en mettre un à la disposition de la mienne qu'il centuplerait et grâce auquel, comme si j'avais été portée par les ailes d'un oiseau fabuleux, j'allais franchir en quelques instants les distances sociales infinies, au moins à Balbec, qui me séparaient de Mademoiselle de Stermaria. Malheureusement, s'il y avait quelqu'un qui, plus que quiconque, vécut enfermé dans son univers particulier, c'était ma grand-mère. Elle ne m'aurait même pas méprisé, elle ne m'aurait pas compris si elle avait su que j'attachais de l'importance à l'opinion, que j'éprouvais de l'intérêt pour la personne, de gens dont elle ne remarquait seulement pas l'existence et dont elle devait quitter Balbec sans avoir retenu le nom. Je n'osais pas lui avouer que, si ces mêmes gens l'avaient vu causer avec Madame de Villeparisis, j'en aurais eu un grand plaisir, parce que je sentais que la marquise avait du prestige dans l'hôtel, et que son amitié nous eût posé aux yeux de Monsieur de Stermaria. Non d'ailleurs que l'ami de ma grand-mère me représentât le moins du monde une personne de l'aristocratie. J'étais trop habituée à son nom devenu familier à mes oreilles avant que mon esprit s'arrêtât sur lui. Quand, tout enfant, je l'entendais prononcer à la maison. Et son titre n'y ajoutait qu'une particularité bizarre, comme aurait fait un prénom peu usité, ainsi qu'il arrive dans les noms de rue où on n'aperçoit rien de plus noble dans la rue Lord Byron, dans la si populaire et vulgaire rue Rochechouart, ou dans la rue de Gramont que dans la rue Léonce Reynaud, ou la rue Hippolyte Lebas. Madame de Villeparisis ne me faisait pas plus penser à une personne d'un monde spécial que son cousin Mac Mahon, que je ne différenciais pas de M. Carnot, président de la République comme lui, et de Raspail dont Françoise avait acheté la photographie avec celle de Pie XI. Ma grand-mère avait pour principe qu'en voyage, on ne doit plus avoir de relations, qu'on ne va pas au bord de la mer pour voir des gens, qu'on a tout le temps pour cela à Paris, qu'il vous ferait perdre en politesse, en banalité, le temps précieux qu'il faut passer tout entier au grand air devant les vagues. Et trouvant plus commode de supposer que cette opinion était partagée par tout le monde, et qu'elle autorisait entre de vieux amis que le hasard mettait en présence dans le même hôtel la fiction d'un incognito réciproque, au nom que lui cita le directeur, elle se contenta de détourner les yeux et eut l'air de ne pas voir Madame de Villeparisis qui, comprenant que ma grand-mère ne tenait pas à faire de reconnaissance, regarda à son tour dans le vague. Elle s'éloigna, et je restai dans mon isolement comme un naufragé de qui a paru s'approcher un vaisseau, lequel a disparu ensuite sans s'être arrêté.